You out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. Send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
Il est 20h02 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio G, bienvenue sur Génération Sport. Vous êtes sur le 101.5 et on est ravis de vous retrouver une nouvelle semaine pour parler de sport, pour parler de l'actualité du 49, des Pays de la Loire, du niveau national mais aussi de l'international, parce qu'on va parler aussi de Vendée Globe en fin d'émission. Ils ont fait le tour du monde et il y a eu un vainqueur aujourd'hui, il s'appelle Charlie Dalin et on va forcément évoquer cela ensemble. Au menu, au sommaire de l'émission ce soir, nous avons donc du basket et beaucoup de basket, je pense. On va forcément en parler. Faustin est ravi de cela, je sais. On va recevoir. T'es pas le seul, exactement. Je pense qu'on est tous ravis de parler basket ce soir, mais pas seulement. On va parler aussi football avec le SCO, parce que le SCO a enchaîné une deuxième victoire consécutive. Donc ce week-end avec la victoire face à Montpellier 3-1. On va évoquer donc du basket, du foot, le Vendée Globe. Il y aura forcément aussi une petite part internationale avec toi, Amaury, pour évoquer d'autres sujets. Donc je vais te présenter quand même, Amaury. Comment vas-tu?
Eh ben, ça va très bien. Très heureux de revenir après quasiment un mois sans être venu, entre les vacances et la super maladie pour débuter 2025. Ouais. Mais tout va mieux. Un petit peu fatigué, mais on est bon. On est prêt à se relancer pour cette nouvelle année sur Génération Sport.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Amaury, pour cette année 2025?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, j'ai envie de dire être pris en école de journalisme pour rentrer la rentrée en septembre. Ouais. Pour essayer d'éviter de bégayer comme ça, ce sera mieux.
Ça peut arriver, t'inquiète
pas. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est peut-être la chose dont j'ai le plus envie, donc pour lequel je suis motivé. Donc voilà, déjà s'il y a ça, franchement, l'année 2025 sera réussie.
Et des victoires en handball ou pas?
Eh ben ouais. Pourquoi pas en souhaiter, mais il y en a eu aussi une ce week-end. Alors, c'était de la coupe, on a été éliminé de Coupe de France. Bon, c'était pas vraiment un objectif. On est passé en coupe région. pas non plus un objectif. On se déplace à 7 sans coach face à une équipe de même championnat que nous qui la joue à 12. Et on fait un match exceptionnel. On gagne de 2 buts.
C'est bien, c'est le principe.
On surprend tout le monde au club et franchement, c'était très bien. Et les filles, elles, jouent vraiment la Coupe de France et elles sont imposées face à Châteauroux ce week-end. Et donc, elles sont en 16e de finale de Coupe de France. Et donc, un beau petit parcours et franchement, ça commence à être très intéressant pour elles.
D'ailleurs, on avait reçu, c'est l'occasion d'en reparler, on les avait reçus en début d'année, quasiment au mois de septembre, octobre, là c'est plus septembre même. On avait évoqué avec toi et avec eux le documentaire qui avait été diffusé sur les réseaux sociaux et sur le site du club, mais aussi sur YouTube, le documentaire qui retrace la saison dernière et leur très très belle saison avec la montée à la fin en pré-national.
En pré-national, exactement.
Donc c'était une très bonne chose. Faustin, qui est là aussi, comment vas-tu?
Bah ça va très bien moi aussi, victoire ce week-end. C'est assez facile j'ai envie de dire, mais ce qui m'a le plus rendu heureux ce week-end, c'est la victoire du Barça. Ça, j'étais comme un ouf devant ma télé en voyant tous ces buts.
C'est ton anniversaire il me semble ce week-end.
Exactement.
Quel âge?
C'était samedi, ça me fait 19 ans.
À 19 ans, voilà, 19 ans. On a la vie devant nous à 19 ans les gars, donc faites-vous plaisir. Et en tout cas, on vous souhaite de très belles choses pour cette année 2025.
T'as pu fêter ça devant une victoire de Marseille, c'était parfait franchement.
Ah bah, c'est exactement ce que j'ai fait en plus, bien.
Et on va parler basket aussi également avec un joueur donc de Trélazé Basket qui s'appelle Marin. Comment vas-tu Marin?
Eh bah ça va super et vous?
Bah ça va très très bien, on est ravis de t'accueillir dans l'émission.
Merci beaucoup.
Et donc de parler basket avec toi. On va évoquer ça dans quelques instants, parce qu'on va d'abord... on va même commencer directement avec toi, avec le Trélazé Basket. On va évoquer ta passion, ton club actuellement, le fait de comment t'es venu aussi de parler basket. On fera aussi le parallèle avec Faustin, avec les U21, parce que bon, y a beaucoup de choses, le basket et les équipes de jeunes. Bah voilà, on sait que parfois quand on passe en interrégion, parfois on peut monter aussi en U21. De toute façon, dans beaucoup d'équipes, il y a beaucoup d'équipes maintenant qui ont des U21 aussi. Et on va parler NBA aussi forcément, parce que je pense que tu es un suiveur un peu de la Ligue nord-américaine. Première question. Comment ça t'est venu le basket chez toi, Marin, de savoir que c'était ce sport-là que tu voulais faire?
Bah ça m'a vu depuis mon plus jeune âge. Mmh. J'ai adoré ce sport, le collectif. L'entente avec les joueurs, franchement, ça m'est venu dès le début. Et tout de suite, j'ai été avec ce sport et je ne l'ai plus lâché, je l'ai gardé.
Et donc, tu as joué à Saint-Sylvain dans un premier temps, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et maintenant, donc, depuis la rentrée, tu es au Trélazé Basket?
Exactement.
Et qu'est-ce que tu as senti, toi, comme différence? Alors attention, là, maintenant, tu joues au niveau inter-région. Est-ce que tu sens une différence de niveau de jeu, toi, et puis même au niveau des entraînements, est-ce que tu en as beaucoup plus qu'avant?
Oui, forcément, il y a une différence. Maintenant, c'est différent parce que c'est plus strict dans tout ce qui se passe. Mais oui, les entraînements, il y en a plus. Il y en a 3 par semaine, donc c'est plus rythmé.
Ouais. Et dans le niveau de jeu, tu sens que les joueurs en face, c'est plus costaud.
Ah oui, ça joue parce que ils sont plus baraques, ils sont mieux préparé qu'au plus bas niveau.
Ouais, tu joues quel poste d'ailleurs, Marin?
Meneur de jeu.
Meneur de jeu.
J'aurais dit pivot comme ça.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. On va pas cacher que Marin, bon, c'est pas le plus grand du studio, mais bon. Après, on va rien cacher aux auditeurs. Marin est un de mes élèves que je connais, donc forcément, et ça me faisait plaisir de le faire venir dans l'émission pour aussi parler de sa passion. Il parlait aussi des équipes de jeunes, du niveau de jeunes qu'il y a aussi dans la région, au niveau de Trélazé, au niveau d'Avrier aussi également, parce qu'à Avrier il y a aussi énormément d'équipes de jeunes et avec de très très bons niveaux. Et donc voilà, donc oui, c'est pas le plus grand, mais cet après-midi j'ai fait un basket avec lui et je m'en suis souvenu. Les genoux s'en souviennent, on va dire, voilà. Mais quand tu dis interrégion, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs jusqu'où tu vas, jusqu'où ton équipe se déplace et jusqu'où le niveau des déplacements?
Bah ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à Landerneau, Limoges, ça peut aller jusqu'à Brest. C'est vrai que des fois les trajets ça peut être dur, mais ça se passe bien.
Ça se passe bien.
Ouais.
Et après c'est vrai, les matchs se font le samedi, le dimanche.
Ouais, c'est ça, toujours les samedis à 16h.
Toujours le samedi à 16h, donc c'est plutôt pas mal aussi pour vous en tant que pour voyager, parce que on rappelle aussi que on va quand même le dire, t'as 14 ans, donc forcément quand on a 14 ans pour se déplacer comme ça, bah voilà, il faut aussi du temps, il y a des études à côté.
Ouais.
Faustin, toi aussi t'as été loin comme ça En basket,
bah, je suis allé en région max et du coup je suis pas allé jusqu'à Brest.
Ouais.
À dire, je pense peut-être le plus loin que j'ai fait c'est Pornichet, je dirais.
Ouais.
Voilà, donc ça fait une heure de route. Ça, tu le sens avant le match, quoi. Faut pas trop dormir dans la voiture, sinon t'es pas totalement réveillé. Mais jusqu'à Brest, ça doit encore être bien différent.
Ouais. Et t'as senti toi aussi une différence au niveau régional quand t'as upgradé en fait en termes de niveau, t'es monté d'un cran. Senti que ça a tout de suite la différence.
Ouais, tu la sens surtout quand t'es plus jeune. Là, en U21, on la ressent moins entre niveau D1 élite et niveau R2.
Ouais.
Mais je trouve qu'en jeune, ouais, le gap entre niveau D1 et R2, il est vachement plus présent parce que en D1, on va dire qu'il y a plein de clubs qui peut se retrouver niveau D1, même des petits clubs, je sais pas, des petits clubs du département, je pense à Châteauneuf qui se retrouve régulièrement en D1 alors que c'est pas des grosses infrastructures, etc. Mmh. Alors qu'en région, justement, c'est plus souvent vraiment des gros clubs bien équipés. En termes d'infrastructures, de coachs qui se préparent mieux, qui connaissent mieux le basket, on va dire, dans la manière de le gérer. Et du coup, ouais, tu sens vite la différence.
Et Marin, t'es d'accord avec ça?
Ouais, je suis complètement d'accord. Ça, il y a plein de choses qui changent dans l'équipement, dans tout ce qui est les coachs, il a raison de le dire. Il y a beaucoup de choses qui changent parce qu'entre le niveau départemental et le niveau régional.
Ouais. Mmh. Amaury, toi, en handball, t'as senti une différence aussi
Moi, je voudrais dire que ça a été progressif ce changement parce que j'ai fait une année de transition, on va dire, où j'étais surclassé un match sur deux, un match sur trois en région, mais forcément, oui, on le sent. Moi, ça a été sur l'impact physique, passer d'équipes qui s'entraînent deux fois semaine en moins de 15 quand tu joues le H qui eux s'entraînent cinq fois semaine et où les gens sont déjà sélectionnés physiquement des tout jeunes là-bas aussi. C'est vrai que ça on le sent là, quand tu ressors du match, il y a d'un côté t'as mal, de l'autre côté c'est bon ça va encore. Mais c'était surtout de ce point de vue-là la différence entre département et région et après aujourd'hui en senior c'est différent. J'ai fait quelques matchs en départemental aussi, mais physiquement c'est à peu près la même chose.
Ouais, donc après ça s'estompe en fait. C'est vraiment le côté.
Je sais qu'à 13-14 ans quand j'ai commencé à jouer en région, la différence elle a été énorme.
Et toi Marin, quelle est en fait ton ambition à la fin en fait? T'as une ambition d'ici quelques années de te dire bon voilà l'interrégion je connais, j'ai envie de développer ça. Est-ce que t'aimerais bien aller voir un peu plus loin à un moment donné ou ça te suffirait?
Bah oui, pourquoi pas, mais moi pour moi le plus important c'est de garder du plaisir à jouer, de vouloir jouer et de pas s'arrêter. Parce que si j'ai plus ça, ça veut dire que je m'épanouis plus et ça me convient pas.
Et donc à Trélazé, donc là pour l'instant vous en êtes où au niveau des résultats ton équipe d'interrégion?
En première phase on a fait 6 victoires, 4 défaites, on finit 4e sur 6 et là on repart pour une deuxième phase.
Ça part quand la deuxième phase?
Ça repart samedi.
Samedi là?
Ouais.
Et vous partez où?
À la Jalte.
Et c'est où là?
Le Mans.
Le Mans? Le Mans. Pour qu'on puisse savoir où se trouve donc la Jalte. Et est-ce que t'as donc là dans ta passion du basket depuis tout petit, est-ce que t'as toujours eu un regard sur le basket et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce sport?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout le collectif que j'adore. Jouer avec tout le monde et surtout marquer des paniers quand c'est serré, c'est un sentiment qui est indescriptible et franchement, c'est super.
T'adores ça?
Ouais, c'est ça.
T'es meilleur sous pression?
Ouais, toujours.
Et toi, Faustin, t'es meilleur sous pression?
Ouais, moi, je parle, j'adore ça.
C'est vrai?
Ah, je provoque les joueurs et tout. Et les gros pivots, là, j'adore leur rentrer dans le lard et tout.
C'est vrai? À ce moment-là, c'est vraiment une facette de toi que je ne connais pas encore.
Mais je suis différent au basket. Hein. Je suis tout frêle, mais je joue à l'intérieur. Et voilà, et j'adore quand les gens s'énervent contre moi au basket. Je joue encore, mais c'est... Je trash talk tout ce que tu veux.
Il n'y a rien de mieux.
C'est vrai, même toi, Wand?
Ah, mais moi aussi. Moi, je sais que, faut pas trop le dire, mais Wand, il y a quelque chose qu'on fait, le petit doigt entre les côtes du pivot pour l'énerver, quand il est à côté de soi, j'adore le faire.
Ah ouais.
C'est parce que quand tu le prends en retour, t'es pas content.
Ouais.
Mais ça arrive forcément, ou quand le public, il commence, je sais qu'il y a des clubs avec qui j'ai beaucoup joué en jeune, quand tu vas jouer chez eux aujourd'hui, tu les entends te trash-talker un peu, franchement.
Ouais.
Moi, c'est là où je fais mes meilleurs matchs.
Et donc, même toi, Marin, quand à 14 ans, t'as déjà cette notion-là de se dire j'aime ça, de jouer avec cette adrénaline-là.
Ouais, je trouve que je joue mieux quand forcément il y a une petite pression de savoir qu'il faut gagner, que l'adversaire en face il te dit que t'es nul. Du coup, faut prouver que t'es meilleur. Et ouais, voilà. C'est ça.
Mais ça, c'est vachement bien parce que il y en a des, même à tout âge, hein, que ce soit jeune ou plus vieux, qui, bah, dans la tête, ces moments-là, ça va pas et ça, on réussit pas. Donc si dès tout jeune, t'arrives à avoir ce côté-là, à maintenir la pression et, justement, la transcender en bon, c'est vraiment bien. Pour l'avenir, faut réussir à garder ça, évidemment.
Oui, c'est ça.
Ouais. Mais tu le travailles? Est-ce que, ou tu regardes des trucs, ou tu regardes des vidéos, tu écoutes des choses? T'entends des trucs sur le parquet aussi parfois où tu te dis tiens ça je vais pouvoir le ressortir ou vraiment c'est juste comme ça passe par ta tête et puis voilà.
Je sais pas si on peut le travailler parce que je pense que c'est quelque chose que
faut que ça reste naturel.
Faut que ça reste naturel et c'est sur le moment ta réaction elle tu peux pas la contrôler. Mais oui, des fois ça peut se travailler en écoutant des joueurs dire des choses, même ton coach il va t'aider sur ça à te dire que c'est pas grave, il faut que tu restes dans ton match parce que si tu sors de ton match après c'est fini. Ton match il est perdu.
T'es d'accord, Faustin, avec ça?
Ouais, je suis grave d'accord. C'est rester dans son match, c'est le plus important. Tu fais sortir ton adversaire, mais tu rentres pas dans son jeu. Et si lui, il rentre dans ton jeu, par contre, là, t'as tout gagné. Même si tu mets 0 points, mais que en face, tu défends sur le meilleur joueur adverse, et que lui, il en met 2-3, bon, bah, t'as tout gagné. Hein.
Ouais. Je connaissais pas cette facette de ton caractère, Faustin. J'ai hâte de te voir en match prochainement. Ouais. Parce que franchement, je vais voir. Je vais demander à Ouest France qui m'envoie sur un match plus 21. Je vais leur demander pour les prochains week-ends. On va quand même parler, avant de revenir un peu sur toi Marin, sur ta passion du basket, sur la NBA aussi, parce que je sais que tu m'en parles assez souvent, et là il y a quand même deux gros spécialistes aussi NBA. On va quand même parler de ce qui s'est passé ce week-end en basket sur le Maine-et-Loire, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses et de très très bonnes choses, Faustin.
Ouais, on va commencer par l'EAB qui gagne 91 à 79 vendredi contre Tarbes qui est troisième au classement. Un match géré de A à Z par les Angevins qui sont sur deux victoires sur les trois derniers matchs et ils commencent très bien 2025 avec cette victoire. On a ensuite l'UFAB qui a un bilan un peu plus mitigé cette semaine avec d'abord une défaite en huitième de finale d'Eurocoupe 64 à 52 face au Beşiktaş. Il faudra gagner donc d'au moins 13 points au match retour pour espérer accéder au tour suivant. Elles ont ensuite remporté le derby des Pays de la Loire contre Roche-Vendée 82 à 70 qui leur permet de retrouver la quatrième place du classement de la Boulangère Wonder League. Mmh. Et enfin Cholet qui gagne aussi contre Nancy 78 à 71 ce qui leur permet de rester premier de Betclic Elite et de commencer merveilleusement leur année 2025.
Alors deux choses en plus dans la presse, on a vu que Ouest France titrait que Cholet ne pouvait plus se cacher après cette victoire contre Nancy. C'est vrai que pour Cholet, là, à un moment donné, les ambitions vont être de au moins jouer les playoffs et de recevoir à la maison le premier tour obligatoirement.
C'est évident, on l'a vu. Si la deuxième phase de saison part comme la première, finalement,
ça serait une déception quand même.
Bah oui, c'est clairement, c'est ce qu'on a vécu. C'était la saison dernière où il y a deux saisons. Ouais, il y a deux saisons. Ça, la première phase est incroyable et après, ça se casse un peu la gueule sur la deuxième. On était vraiment très déçus de voir qu'ils n'ont pas pu bien jouer les playoffs comme on aurait voulu. Donc là, ouais, ce serait vraiment une désillusion de descendre bas dans le classement.
En tout cas, on l'espère pour Cholet Basket, pour l'UFAB aussi également. Tu l'as annoncé ça la semaine dernière dans l'émission. Rester dans les places aussi pour recevoir à la maison. Cette victoire, elle fait du bien. Ça les replace dans le top 4 et c'est très important pour la suite.
Ouais, ça, top 4, c'est justement les places qui font qu'on accueille en play-off. Donc, faut pas descendre plus bas. Ça va être un peu plus compliqué pour elles tout de même parce que le classement est plus serré et elles sont pas aussi hauts qu'est Cholet. Mais c'est jouable au vu de ce qu'elles font depuis le début de la saison. Là, cette victoire contre Roche-Vendée, elle fait beaucoup de bien. Elle est assez large, assez facile même. Alors qu'il y a de ça, la saison dernière, tout simplement. Un match contre Roche-Vendée, c'était un match charnière pour la saison, pour savoir si on allait jouer le play-off ou le play-down.
Et on rappelle aussi que l'UFAB a un effectif complètement remanié. Hein. Ouais. Tout a été chamboulé l'été dernier avec beaucoup de départs, avec des joueuses emblématiques qui avaient marqué les deux dernières saisons. Et donc là, il fallait reconstruire quelque chose. Et au final, l'UFAB a réussi tout de même à être dans les places pour les play-offs, dans le top 4 pour le moment. Donc on croise les doigts. Le basket dans le Maine-et-Loire est en train de vraiment une vraie ampleur. Là, on retrouve quelque chose de très très bon, d'un très bon niveau. Le AB, en plus, on les avait reçus donc avec Mathéo Valton avant les vacances. Et là, au final, ça gagne encore une fois. Ouais. Donc c'est bien.
Pas contre n'importe qui en plus.
Ouais, en plus, ouais. Donc c'est bien d'enchaîner les victoires et ça fait plaisir en tout cas. L'occasion aussi quand même pour moi de parler d'Avrillé. J'ai été les voir le week-end dernier, donc contre Orthez. et un magnifique match de National 2. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à les voir et je le redis, parce que franchement, Amandine Brie m'a beaucoup impressionné. Un tempérament très très calme, mais vraiment prendre l'équipe sur son dos à un moment donné et de dire bon voilà on va. Et en plus, même en fin de match, elle avait une individuelle sur elle. Vraiment, tu te dis bon.
Elle box out.
Et là, clairement, derrière, elle te met un shoot de derrière la ligne à 3 points. Ça fait lever tout le monde dans la salle. Vraiment, ça fait plaisir à voir. En tout cas, allez voir du basket. Alors après, il faut voir aussi d'autres sports, du foot, du hand. Mais le basket sur Angers et sa périphérie, c'est en train de vraiment être le feu en ce moment. On va parler handball avec toi quand même, les dernières infos handball, du SCO handball.
Ouais, pas spécialement de match pour le SCO pendant cette période, même si j'ai cru voir qu'il y avait un match amical. J'ai pas spécialement regardé le résultat, mais ça reprendra début février, le 7 février je crois, le prochain match. Donc une très longue pause pour du hand, c'est pas tous les ans comme ça. En tout cas cette année, j'ai envie de dire, c'est peut-être très bienvenu. On a un nouveau coach qui est arrivé il y a pas si longtemps à Angers, donc le temps de tout mettre en place, de bien caler ses principes de jeu, etc. Je pense que ce mois-là peut que être fondateur pour le SCO, pour essayer de repartir sur les meilleures bases. En tout cas, on sera obligé de partir sur les meilleures bases, sinon la D2, ça sera terminé à la fin de l'année pour le SCO, qui pour l'instant ne compte... Comment ?
Il n'y a plus de Pro League pour eux.
Voilà, ce sera ça, parce que pour l'instant, aucune victoire depuis le début de saison, seulement 2 matchs nuls. Donc voilà.
Une victoire en Coupe de France, mais après une élimination.
Contre Limoges cruel en plus.
Ouais. En plus, ils font un bon match contre Limoges.
Une équipe qui joue l'Europe, qui est en première division, qui joue l'Europe, le SCO qui n'arrive pas à gagner une seule fois en deuxième division et qui arrache les pénaux en Coupe de France.
C'est incroyable.
Mais finalement, c'est une défaite aux pénaux, derrière défaite face à Valence, je crois que c'était. Et Valence, c'était un match capital. Donc il va tout de suite falloir prendre des points. Et on l'espère que ce mois de travail après les fêtes aura fait du bien aux Angevins et qu'ils pourront se relancer de la meilleure des manières.
On chamboule un peu le conducteur ce soir parce qu'on reçoit donc Marin dans l'émission. Mais voilà, on a parlé basket, on a parlé handball pour le local. On va s'exporter un peu, on va partir un peu de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que tu suis la NBA, Marin, au niveau basket, forcément, je pense?
Alors oui, je suis forcément comme tous ceux qui sont fans du basket. Et ouais, j'adore cette ligue.
Est-ce que tu regardes parfois, parce que moi je sais que dans ma jeunesse, j'ai fait un peu de basket aussi, mais je veux dire, j'aimais bien regarder les vidéos pour me dire, pour voir un peu ce qu'il était capable de faire. Et ouais, moi, j'étais vite compris que j'avais pas forcément le niveau pour essayer de faire les mêmes choses. Mais est-ce que parfois tu regardes, ou même Faustin, vous regardez un peu des trucs pour des petits tips pour à sortir à l'entraînement ou même en match?
Oh, moi, pas tellement.
Pas tellement.
J'avoue que non, les moves de NBA, moi déjà en NBA. Des fois, il y a 4 pas qui passent, ce genre de choses. Mais on va dire, les joueurs sur lesquels j'ai le plus appris, c'est Patrick Beverley.
Donc le trash talking.
Ouais, le trash talking. Mais vraiment, je pense que c'est s'il y a un joueur, sur qui j'ai reproduit, j'ai essayé de reproduire des trucs qu'il a déjà fait, c'est Patrick Beverley. Sinon, j'ai regardé aussi, je me suis entraîné quand j'étais plus jeune à reproduire des moves de Kyrie, mais bon, j'ai jamais calé un match, quoi.
Marin, est-ce que tu regardes aussi des vidéos qui peuvent te dire bon bah j'aimerais bien tenter ça, je l'essaye et puis ça marche pas, voilà.
Moi je regarde beaucoup d'highlights, mais bon, c'est vrai que des fois ils font des trucs très très osés.
Ouais.
Donc franchement c'est dur de les refaire en match, sachant qu'il y a des trucs qui sont vraiment durs à faire. Donc non, je tente pas, mais par contre j'aime bien regarder ça et franchement des fois il y a des trucs, c'est ouf ce qui passe.
Je pense savoir ce que vous reproduisez par contre, c'est les célébrations. Les célébrations, vous refaites ou pas?
Non, ouais, Alors, ça dépend des coachs. J'ai eu un coach une année, il nous a dit, si j'en vois un faire une célébration, vous êtes mort. Depuis ce coach-là, je fais plus de célébration, mais avant, il y avait un petit 3 points à la Carmelo qui passait, genre de choses. mais depuis 2-3 ans, on est un peu plus sage.
Bah, est-ce que tu fais des célébrations, toi?
Ah non, pas du tout.
Tu les réserves que, à ton éducateur quand tu lui marques à 3 points dessus, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Non, okay. Mais, franchement, je l'aime pas trop, enfin. Je trouve que
c'est normal de marquer pour toi.
Oui, c'est non, mais certaines fois ça sert à rien de célébrer trop. Enfin, si les adversaires ont été cool avec nous, je vais pas célébrer et je préfère rien dire. Ouais. Et voilà. Par contre, s'ils sont pas cool, là on va célébrer.
Et imagine. T'es la date, il te reste 3 secondes, tu prends la balle, t'es 3 mètres derrière la ligne à 3 points, tu tires, ça rentre, ça fait gagner. Tu célèbres pas?
Ah bah là, je cours partout. Mais oui.
Évidemment.
Parce que tout à l'heure, il m'a lâché un tout small. Il m'a mis un 3 points, j'avais mal. J'avais mal au dos après, mais voilà. Non, mais concernant côté
basket derrière.
Non, bon, j'ai même pas essayé. Il est trop rapide pour moi. Il est trop rapide pour moi. Non, mais niveau basket, est-ce que t'as des joueurs NBA que t'adores, que tu regardes, si demain tu dois regarder des highlights en particulier, quels sont les joueurs que tu choisis, que tu cibles?
Bah, franchement, il y en a un, il m'a fait grandir, c'est Tony Parker. Je l'ai regardé depuis tout jeune. Et franchement, c'était un Français vraiment bon. Très, très bon même.
Ouais.
Et, ouais, en fait, c'est que surtout, je regarde tout ce qui passe. Enfin, tout ce que je vois, et bah, je le regarde et voilà, je regarde ce qui me plaît.
T'as une équipe en particulier?
Ouais, j'adore les Spurs.
T'adores les Spurs?
Surtout, il y a Victor, donc.
Bah, voilà. Forcément. Bah, les Spurs vont redevenir. Il y a eu un creux entre le départ de Parker et l'arrivée de Victor Wembanyama.
Ceux qui découvrent la NBA en France aujourd'hui, franchement, les Spurs, tu y vas vite. Hein.
Mais double match en plus, donc on rappelle que c'est ce week-end qu'ils arrivent. Donc il va y avoir les matchs contre les Pacers.
C'est jeudi.
Et il y en a un autre. Ouais, jeudi, samedi.
Tu sais quand c'est en fait.
Ah bah, c'est le jeudi, je serai en tribune.
Ah bah oui, tu vas en plus.
Ouais.
Ah, trop bien. Envoyé spécial, il va nous faire des photos. Il va nous pourrir la conversation WhatsApp, Faustin. Mais bon, t'as bien raison d'y être et de t'amuser en tout cas là-bas. Et après, c'est un match en plus en horaire européenne, donc on va pas se cacher de le regarder en plus.
Faites-vous plaisir.
On va se faire plaisir.
On va avoir le droit à du beau basket.
On va avoir du très très beau basket. En parlant de Victor Wembanyama, on peut en parler rapidement parce qu'il y a eu victoire cette nuit contre LeBron en plus, donc un très très beau match. Tu veux en parler, Faustin?
Ouais, bah j'ai pas spécialement vu le match, mais j'ai vu évidemment quelques highlights passer et les stats de Victor ainsi que ses coéquipiers, ils ont été trois du côté des Spurs à finir à 23 points, dont la Arias 51 avec Stephen Castle,
ouais,
tout simplement, qui tous les deux combinent 23 points, enfin chacun 23 points chacun, pardon, et ce qui leur permet de prendre une belle victoire à Los Angeles. Mais surtout, ce qu'on retient, je pense, de ce match, c'est le beau geste à la fin de Chris Paul et de Victor Wembanyama qui vont donner leur maillot dédicacé aux enfants de JJ Redick qui ont perdu un peu toute leur collection dans les incendies qu'il y a eu ces derniers temps à Los Angeles.
Ouais, c'est horrible ce qui se passe du côté de LA. On le rappelle parce que bon, après il y a forcément, peut-être que vous connaissez des personnes, des auditeurs connaissent des personnes qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est vrai que ça fait flipper de voir ce qui se passe du côté des États-Unis avec les incendies. Donc et en plus il y a eu déjà le match, il avait été reporté en plus, ouais, ce match contre
pour les Clippers aussi, il y a eu des matchs reportés,
donc c'est pas forcément évident de jouer du côté de LA ou de se déplacer du côté de Los Angeles, donc on pense forcément un peu à eux. Sans doute une petite émission basket jeudi, mais on en fera une jeudi d'après.
À moins qu'on arrive à voir un petit live directement depuis la salle.
Je suis pas sûr que j'ai beaucoup de connexions.
Du côté de Bercy. Mais on fera de nouveau une émission NBA, donc Génération Sport sur Twitch. On parlera NBA dans 10 jours, forcément. Et là, on va faire la petite pause musicale, Faustin, avec une pause en lien avec le basket et la NBA.
Ouais, c'est ça. On va s'écouter un son qui tourne un peu dans tous les vestiaires. On va s'écouter Tweaker de LiAngelo Ball, le frère de LaMelo Ball et Lonzo Ball.
Tweaking this bitch, not letting shit go. And I heard that she wanna show me who she be. I'm kinda fucking with it, show me some more. Bitch, we tatted head to toe, could give a fuck the story wrote. You wanna tweak it over me and I'ma show you how that go. Like the money in my pockets blow. They having combos about me, these pussy niggas don't know. Tell me what they talking about. I ain't fucking listening, let your thoughts run your mouth. But ain't touching dividends, nigga. I ain't from the south, but kick it with my Memphis twin. Nigga, I can't take a loss, I'm always going for the win. I've been geeked up in this booth, I got my blunt pack for the starter. Nigga, don't be acting new, they put some hoes all through your body. I'm like, all the hoes is cool, let them in if that shit water. See a nigga acting bothered, got my green light to red dot. If you spot me, oh, I'm sorry, I can't take you, ain't getting all it. Look like your nigga want smoke, but we gon' do this shit regardless. And I started from the bottom, just like you, but I was harder. I came up a fucking soldier, nigga. Shout out to my father.
Shout out my father.
He made sure I make it farther.
glass and got glass and dollars. I might swerve in that corner, whoa, whoa. Bitch, hold on tight, cause I tweaking this bitch, I letting shit go. And I heard that she wanna show, whoa. Me who she be, I'm kinda fucking with it, show me some more. Bitch, we tatted head to toe, could give a fuck, the story wrote. You wanna tweak it up with me and I'ma show you how that go. Like the money in my pocket's blue, whoa. They having combos about me, these pussy niggas don't know. With my evil twin, all black hoodies, we hit the streets again. He don't like attention, he'll tweak and get the reaping shit. What your ass expect, we drove the hallway in a demon, bitch. He'll pop out, won't think twice and make you greet the switch. Is you sure you wanna meet that bitch? If I see ill intentions, we'll make sure you get the bleeding bleed. All they got in West, the whole damn gang being some rocket shit. So pull up to the scene, my best advice is to hide your bitch. I can see the lies all on your faces, cause your eyes are twitched. The black ski mask all on our fucking faces, be disguising shit. I'ma have my way with your baby, you wanna cry and shit. Rest my Glock against a fucking waist, I got some powder lit. She my bitch, not my apologies. I might start ignoring her. Made you rap with me, then rap with me. But I'ma keep it real, she lost respect when you said follow me. I might swerve in that corner, whoa, whoa. Bitch, hold on tight, cause I tweaking this bitch, I letting shit go. And I heard that she wanna show, whoa. Me who she be, I'm kinda fucking with it, show me some more. Bitch, we tatted head to toe, could give a fuck, the story wrote. You wanna tweak it up with me, and I'ma show you how that go. Like the money.
De LiAngelo Ball, donc sur les antennes de Radio G sur le 101.5, on le disait pour faire un parallèle, c'est le frère de Lonzo et le frère de LaMelo Ball, deux joueurs de NBA, enfin bon, deux joueurs. Lonzo joue plus forcément beaucoup, même s'il a tenté un retour. LaMelo est donc du côté des Hornets à Charlotte. Pour celles et ceux qui nous écoutent le jeudi soir, on en parle assez souvent des
premiers au classement pour le All-Star Game, ouais, Money Guard.
Exactement. Au niveau de la conférence Est, ouais. Exactement, LaMelo Ball qui a donc de grandes chances qu'on le voit d'ici un mois sur le match des étoiles américaines. On va parler, en parlant d'étoiles, on parle de deux victoires consécutives, deux étoiles on va dire, mais elles vont pas apparaître sur le maillot celle-là, mais en tout cas il y a deux victoires consécutives pour le SCO football. Donc la dernière fois c'était contre Brest à domicile, c'était il y a 10 jours, et il y a eu cette victoire très très importante du côté de Montpellier, donc 3-1 à l'extérieur avec un nouveau doublé d'Esteban Lepol. On en parlait la semaine dernière, Faustin, avec Matteo également, de cet attaquant repositionné dans l'axe, ouais, par donc Alexandre Dujeu, et c'est un choix fort parce que bon bah il y a ni Nian ni Bamba Dieng qui avait été donc recruté en prêt pour essayer de pallier au départ offensif, au manque d'attaquants, et bien Esteban Lepol est là et il claque donc 3 en 2 matchs. C'est une grosse performance à Amaury.
Et bah ouais, alors j'ai pas pu voir ce match spécialement, j'avais pu voir celui de la semaine passée contre Brest, mais évidemment c'était deux matchs qui étaient très importants pour le SCO, l'un face à Brest dont vous avez pu en parler la semaine dernière, mais Brest qui est friable à l'extérieur, surtout en Ligue 1, mais donc très peu de victoires extérieures pour Brest, donc c'était un match à prendre pour le SCO, ils l'ont fait, et là forcément aller à Montpellier qui est lanterne rouge, et c'était une occasion de les mettre dans la rétro de manière je pense définitive. Montpellier
assez significative,
voilà. C'est aujourd'hui c'est 10 points d'avance face au club Héraultais, donc évidemment c'était important, un match qui a été d'un temps maîtrisé, un temps on a pu peut-être avoir des doutes, puis après bah Montpellier l'a perdu tout seul sur la fin en pétant un câble, hein, avec ses deux cartons rouges, et derrière bah on a cette dernière action, un gardien qui monte, et derrière bah on va marquer dans le but vide, 3-1 pour le SCO. On a un invité qui a vu le match et qui va pouvoir je pense en dire encore un peu plus que moi, donc je pense que je peux même te lancer là-dessus sur savoir ce que tu en as pensé.
Bah, ce qui est super, c'est que Esteban, il répond aux attentes, parce que beaucoup en attendent de lui. Mmh. Et franchement, 3 en 2 matchs, c'est une grosse performance de sa part. Et franchement, le SCO, c'est bien. Hein. C'est bien parce que ça leur donne de l'air au classement.
Ouais.
Parce qu'ils n'étaient pas très très bien.
Non.
Et là,
non.
Ils démarrent 2025 de la meilleure des manières.
T'étais présent contre Brest.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a plu dans cette rencontre, Marin?
Bah, ce qui m'a plu, c'est que on est resté solide. Parce que début de deuxième mi-temps, il y a eu un vrai creux.
Ouais.
Et on est resté solide et pour à la fin aller marquer. Et franchement, ça fait plaisir.
C'était important de remporter ce match contre Brest. C'était assez inattendu quand même. Parce que même si la physionomie du début de journée, vendredi, samedi, on avait pu voir que bon, des joueurs des équipes européennes pouvaient lâcher quelques points. et vraiment peut-être avoir des difficultés. Le fait de gagner contre Brest est une surprise, mais c'est bien de prendre des points pendant que d'autres n'en prennent pas. Et là, de vraiment conclure la chose face à Montpellier, Faustin, c'est important pour le maintien.
C'était vraiment important pour prendre de l'avance sur la relégation, pas forcément sur Montpellier directement, ouais. Parce qu'ils sont déjà assez loin. Mais oui, c'était un match important, on en avait parlé la semaine dernière. Et c'est un point réussi par le SCO, ce qu'on avait du mal à voir les saisons précédentes, pas celle de Ligue 2, mais celle avant en Ligue 1. Voilà, on gagne toujours nos matchs contre les petits, et ça c'est ça qui fait que le SCO est pas relégable aujourd'hui, et même 13e devant Rennes et Nantes. Donc ouais.
Donc le premier club de la région. On va dire ça comme ça. Non, mais sans vraiment attaquer ni Rennes ni Nantais. Mais trois points d'avance
Rennes
sur.
Rennes n'est pas dans la région.
Rennes n'est pas dans la région, c'est vrai, exactement. On va dire de l'Ouest, on va dire.
Voilà.
Ah non, après, il y a Brest aussi. Si on va aller plus loin dans ces cas-là.
On s'aventure pas là-dedans.
Ouais, exactement, on va beaucoup trop loin sinon.
Non, mais de la région, ça marche.
De la région, ça marche. Pour Nantes, ouais. C'est très bien.
Voilà.
C'est très bien. On sent la rivalité qui est là. Il est très content d'être devant Nantes. Non, trois points d'avance sur Saint-Etienne, qui est premier relégable, enfin, barragiste, on va dire. Et, mais quand même, 7 points d'avance sur Le Havre, qui est 17e. Ça, c'est important. Et tu joues Auxerre, donc le prochain match, le week-end prochain. Avant cela, il y a le match contre Quevilly-Rouen demain en Coupe de France. C'est bien d'enchaîner les rencontres. Là, on est dans une spirale, positive. Est-ce qu'elle va faire du bien cette rencontre-là? Même si, attention, de lâcher quelques forces en route. Tu ferais quoi, toi? T'es Alexandre du jeu, Faustin. Tu fais tourner, tu mets l'équipe type. Qu'est-ce que tu fais?
Non, là, on met l'équipe type, je pense. On essaie quand même, parce que perdre contre Quevilly-Rouen, même si c'est pas l'effectif, l'équipe type, pardon, ça fera mal au moral, parce que même si tu mets pas ton équipe type, tu mets pas non plus tout le banc sur le terrain.
Ouais.
Et il y aura quelques joueurs qui pourraient être touchés. Donc, je dirais de jouer ce match à fond et de le remporter. Et pourquoi pas aller jouer quelque chose en Coupe de France, on sait jamais, aller jouer une demi-finale, des quarts de finale, c'est toujours jouable.
Ça peut permettre d'avoir un engouement supplémentaire aussi pour la saison, pour l'équipe. Je pense qu'elle en a besoin d'avoir des supporters présents au stade, de retrouver cet engouement qui a peut-être été un manque en début de saison, là dans le moment de creux, dans les défaites. Là, on retrouve quelque chose avec ces victoires, hein, Maury.
Ouais, évidemment, je pense, moi, l'équipe type, c'est quasiment obligatoire. Après, il peut y avoir un ou deux petits changements. Mais tout à l'heure, par exemple, j'ai regardé la composition de Marseille pour son match. Marseille met l'équipe type, alors qu'il y a bien plus de changements possibles et quand même de solutions du côté d'Angers. Donc, si Marseille met l'équipe type, je pense que du côté d'Angers,
Marseille joue Lille.
Marseille joue Lille. C'est vrai que.
Il joue pas à Rouen.
Ouais, mais est-ce que Angers a une marge, hein, face à Quevilly, peut-être, est censé être meilleur. Mais, on sait
pas
jamais.
Pas une immense marge.
Voilà,
non plus.
C'est ça.
Non, voilà.
C'est ça. Donc, je pense qu'il faut mettre l'équipe type pour s'assurer une victoire, continuer cette belle série et ce super début d'année 2025. Et derrière, pourquoi pas lancer, ouais, vraiment une super série contre, derrière Auxerre.
Qu'en penses-tu, Marin?
Pour moi, c'est pas la Coupe de France. C'est peut-être pas l'objectif cette année.
Ouais.
Moi, j'aurais plus mis l'équipe 2,
l'équipe bis, ouais.
Et au pire, si on voit que ça va vraiment mal, et ben on fait rentrer les remplaçants et
les cadres,
ouais. Et on essaye de gagner. Mais après, je pense que le plus important, c'est le maintien, et il y a Auxerre derrière. Je pense que c'est vraiment important que on prenne les 3 points à Auxerre.
Important en plus donc tu reçois Auxerre, mais en plus Auxerre ne joue pas à la Coupe de France, donc il y aura pas ce match supplémentaire dans la semaine. Donc on verra si les organismes angevins seront heurtés. Lors de ce week-end à venir, est-ce que tu veux parler de Ligue 1, Maury, aussi également?
Ouais, j'avais noté quelques petites choses sur ce week-end de Ligue 1. Il faut que je le retrouve, voilà, ici, avec un week-end qui a pu laisser des traces en haut du classement. En effet, Paris s'est imposé contre Saint-Etienne, Marseille contre Rennes, et creuse donc désormais l'écart vis-à-vis de Monaco, maintenu en échec par Nantes, de Lille, qui a concédé le nul sur le terrain de Auxerre, ou encore face à Lyon, qui s'est incliné 2-1 du côté de Brest. Des résultats en Dancy qui profitent également à Nice, hein, vainqueur de Reims et qui se replace dans la course au podium. Enfin, on a Lens, qui profite aussi de cette journée pour se rapprocher des places européennes, hein, grâce à sa victoire contre le Havre, et Strasbourg qui de son côté continue sa super série en s'imposant pour la 4e fois de suite, c'était contre Toulouse, victoire 2-1.
c'était la Ligue 1 ce week-end. C'est vrai que moi j'ai pu voir le match du Racing Club de Lens. Forcément, j'ai jeté un œil dessus, même un gros œil, on va dire.
Un œil pendant 90 minutes.
Exactement. Mais donc j'étais assez satisfait de la victoire lensoise, forcément. Mais ça me fait de la peine de voir donc le Havre, mais aussi Angers, parce que bon, on va quand même en parler des choses un peu négatives. On a vu l'équipe sortir un article sur le SCO qui a du mal à payer ses joueurs donc le mois dernier, au mois de janvier, hein, donc voilà, une situation qui est compliquée à gérer parce que on sait que les droits télé sont un gros problème en France. Et donc la manne financière n'est pas forcément arrivée comme espéré, comme attendu, donc du côté d'Angers, mais d'un point de vue au Havre, donc pas de problème pour payer les salaires, mais c'est exactement aussi le problème d'une équipe qui n'a pas pu recruter, qui n'a pas pu avoir les enveloppes nécessaires aussi dans la redistribution des droits. Et ça m'a fait de la peine de voir ce week-end, même si ils menaient au score, hein, le Havre a mené 1-0 face à Lens. Lens s'est imposé 2-1, mais c'est vrai que c'est dommage de voir que ce championnat n'est pas forcément, comment expliquer ça, un peu inégal, voilà. Il y a un peu d'inéquité, d'inégalité. Je trouve ça vraiment dommage. Et en plus, quand on voit la sortie de Textor hier sur les antennes de RMC, qui charge bien par rapport à cela aussi, exactement, par rapport au droit télé, par rapport à la gestion du foot français, donc la Ligue, mais aussi certains présidents de foot d'un grand club parisien, on va dire. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage. Ça m'a fait de la peine de voir ces clubs-là. Je sais pas ce que tu en penses.
Et moi, le Havre, c'était quand j'ai vu le match de la semaine d'avant, hein, contre Marseille. Ouais. Le niveau de jeu m'a vraiment fait de la peine, hein, parce que Marseille, vous beau avoir fait un bon match, franchement c'était très faible. Et derrière, c'est vrai que quand on sait les difficultés qu'ils ont, comment s'en sortir? On peut pas recruter, on a une équipe qui met pas un pied devant l'autre depuis un bon moment. C'est vrai que c'est compliqué, et je pense que soit dans la tête du coach, des joueurs, des dirigeants, ça doit tourner en rond, on doit pas trouver de solution. Donc si ce n'est de continuer à s'entraîner et d'essayer de faire mieux chaque week-end, mais c'est compliqué dans ces spirales négatives, donc voilà, compliqué pour ces petits clubs comme ça, comme le Havre, dans cette situation. Une situation en plus, on sait, au Havre, très compliquée depuis un moment, avec des non payés par la Ligue, il y a eu des gros problèmes.
Très dur pour eux. On finit sur la page football avant d'évoquer le Vendée Globe et puis après de partir avec toi sur la page internationale. Je vais donner quand même les 5 prochains matchs du SCO. Donc le match de Coupe de France demain soir à 18h30, ça sera sur Bein Sport, puisque c'est eux qui ont les droits de la Coupe de France. Donc à 18h30, Quevilly, Angers Auxerre, donc ce week-end dimanche à 17h15, match très important à Copa. On espère que de nombreuses supporters vont pouvoir être présents dans le stade pour encourager les Angevins. Ensuite, Angers ira à Lens, recevra le Havre, donc ça c'est un match très important aussi, début février, le 2 février prochain, avant une réception, une double réception pour les Angevins par Marseille. Tu seras au match ou pas?
Je serai pas au match. Je pars en week-end aussi. J'ai très mal choisi mon week-end. Mais bon, je vais pas m'en plaindre. Je regarderai le match au coin du feu là-bas. Mais bon,
en espérant une victoire angevine ou marseillaise à Morée.
J'espère que le SCO aura gagné la semaine d'avant et comme ça, je serai 100% derrière. Non, dans tous les cas, je serai 100% derrière Marseille. Mais on espère que le SCO sur l'ensemble des matchs en prendra 4, disons.
Quatre
victoires et la défaite contre Marseille.
Ah d'accord. Non, donc disons, victoire au Serre, victoire
Disons que ce serait bien d'avoir au minimum 6 points sur ces matchs, j'ai envie de dire.
Les 4 matchs de championnat, du coup.
4 matchs de championnat, 6 points, ce serait bien.
Donc victoire contre Auxerre, victoire contre Le Havre.
C'est ce que je dirais, ouais.
Ça serait bien?
Ouais, parce que toi, tu la veux pas contre Lens.
Ouais, c'est ça, exactement. Je la veux pas contre Lens, exactement. Voilà, t'as tout résumé.
C'est mis d'accord, c'est parfait.
Exactement, voilà. On va passer maintenant à ce qui s'est passé du côté des Sables d'Olonne. Aujourd'hui, ce matin, aux alentours de 8h20, ouais, 8h30, grand maximum. Amaury, t'as noté quelque chose là-dessus,
ouais,
je pense.
On peut dire que Charlie Dalin a parfaitement choisi son timing, hein, pour l'émission de ce soir, en s'imposant aujourd'hui après 64 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes, pour être très précis. Soit plus de 9 jours de moins que le précédent record établi par Armel Lecléache en 2017. Une victoire particulièrement significative pour le skipper originaire du Havre. On en parlait en foot. En voilà, on en parle pour le Vendée Globe, qui avait terminé deuxième lors de la précédente édition. Considéré comme le grand favori pour celle-ci, il a dû faire face à la superbe concurrence de Johan Richaume. Pour rappel, au passage du Cap Horn, juste avant la remontée de l'Atlantique, c'était lui qui était en tête, seulement 9 petites minutes d'avance sur Charlie Dalin. On aura donc assisté avec ce duel à l'un des Vendée Globe globes les plus serrés de l'histoire. Au final, c'est donc Le Havre sur son Imoca sponsorisé par Massif qui s'impose. De son côté, Johan Richaume, déjà vainqueur de la Route du Rhum, donc pas un novice, décroche une deuxième place pour sa première participation. Il devrait arriver cette nuit. Il est toujours pas arrivé. Normalement, il devrait être deuxième, sauf avarie énorme sur ces dernières heures de course.
Ce serait malheureux pour lui.
Ce serait très malheureux. Mais en tout cas, il repart avec le record de la plus grande distance effectuée en 24 heures. Donc un petit record quand même pour lui. Maintenant, la course est loin d'être terminée pour les derniers et pour la plupart des concurrents, tout aussi méritants, et des bateaux qui sont tout simplement pas aussi performants et qui devraient arriver au compte-goutte lors des 2 à 3 prochaines semaines.
Ah ouais, parce qu'il y en a encore, que quelques-uns qui n'ont pas encore passé le Cap Horn. Ouais, donc du coup, c'est quand même faut quand même se rendre compte et dire ça à nos auditeurs, c'est que cette course allait incroyablement difficile, et la performance de Charlie Dalin avec les 64 jours, le record absolu, c'est lui qui l'a maintenant, qui le détient, c'est tout bonnement incroyable. Marin, est-ce que t'as suivi un peu de loin le Vendée Globe?
Ouais, j'ai suivi un peu de loin et je trouve ça vraiment incroyable ce qu'il a fait, Charlie Dalin. Mais ouais, franchement, superbe performance et je suis très content pour lui.
Rendez-vous dans 4 ans, donc pour la prochaine édition maintenant. Il va falloir un peu attendre, c'est vrai, mais c'est toujours sympathique de voir ces... Enfin, sympathique. C'est dommage de voir aussi des courses. Cette course est tellement difficile que attendre tous les 4 ans, c'est quand même tout bonnement important. Mais voilà. Rendez-vous maintenant dans 4 ans pour revoir un départ avec tous ces bateaux en même temps. C'est vrai que l'image était folle. Et j'aimerais bien que, je sais très bien que les membres de l'équipe ne nous regardent pas, ne nous écoutent pas. Mais j'aimerais bien qu'ils se ratent pas sur la une de demain. Vraiment, j'aimerais bien qu'une vraie une. Il y a beau avoir Lille, Marseille ce soir. Ah oui, je ne veux personne d'autre que Charlie Dalin.
Oui, j'espère bien aussi.
Attention.
Non. Avec la photo avec le...
Mais j'espère bien. Parce que je la veux aussi dans ma collection, c'est normal.
Mais voilà. Moi, j'avais une petite question quand même à vous poser sur ce Vendée Globe. J'ai vu pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux, sur des articles, où on demandait à ce qu'il y ait plusieurs classements. Parce qu'en fait, on voit que les bateaux sont différents les uns des autres. Certains avec foil, d'autres sans foil. Est-ce que vous seriez pour ça, malgré le fait qu'en fait, il y ait qu'un règlement et qui impose pas tout le monde en soi peut avoir le meilleur bateau, mais c'est financier, c'est comment t'es sponsorisé. Est-ce que vous seriez quand même pour qu'on puisse mettre peut-être deux catégories, et du coup ceux qui ont le plus de sous vont sur la première, ceux qui ont le moins de sous vont sur la deuxième?
Je suis pas forcément d'accord. Je resterai là-dessus sur ce format de classement là, parce que regarde, quand tu vois aux 24 heures du Mans, il y a plusieurs classements. Hein, donc,
oui,
et en fait, le seul qui est intéressant, et celui qui marque vraiment les gens, celui dont on parle, c'est la catégorie reine. Donc,
les deux, je crois.
Ouais, donc,
non, mais je suis plutôt d'accord, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de débats là-dessus avec des gens qui étaient qui avaient les deux avis. Ouais. C'est aussi compréhensible parce que c'est vrai que il y en a qui partent, qui savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner, mais c'est là aussi que c'est beau, c'est que le Vendée Globe, tu le fais pas que pour gagner, tu le fais pour l'aventure, pour
l'expérience d'une vie.
Voilà, c'est l'expérience d'une vie, c'est sûr. Alors il y en a qui l'ont fait plus d'une fois. On pense à Jean Le Cam, on pense à d'autres, mais certains le font qu'une fois.
Et peut-être que ces personnes-là qui donc seront autour de la 20e place, peut-être que dans 4 ou 8 ans, seront en train de jouer les premiers rôles dans le Vendée Globe. Et
il y en a, c'est comme ça qui sont connaître pour les sponsors et qui derrière aussi arrivent à récupérer. De toute manière, faut passer par d'autres courses avant. Ici, Johan Richaume, qui avait un très bon bateau aussi, lui, il a gagné la Route du Rhum.
Ouais.
Donc voilà, faut obligatoirement faire les performances avant. Ça passe aussi par peut-être des parents sur le Vendée Globe pour être performant les prochaines années.
On verra si Radio G pourra peut-être un jour sponsoriser un bateau. On va demander à la région de rallonger un peu le budget par contre, parce que
chaque voile, une tête de l'un d'entre nous et c'est parti.
Génération Sport, voilà, c'est ça, exactement. Amaury, la suite de l'actualité internationale, c'est avec toi dans Génération Sport.
Et oui, donc aujourd'hui, c'est aussi le coup d'envoi des championnats du monde de handball. Il fallait forcément parler, j'allais pas louper ça. Ça s'annonce passionnant. Cette année, la compétition se déroule dans 3 pays différents, hein. La Norvège, le Danemark et la Croatie. C'est la Croatie pour les Bleus pour cette phase de poule. Et donc, avec un premier match ce soir à 18h que la France a lancé son tournoi, c'était face au Qatar. Et spoiler, ils sont entrés de la meilleure des manières en écrasant leur adversaire 37-19. L'équipe tricolore débute donc parfaitement un premier tour qui semble à sa portée, hein, puisque les autres équipes de la poule sont le Koweït et l'Autriche.
Ouais.
Cependant, au-delà de ce premier tour, il faut que pour les Bleus se remobiliser, surtout après l'échec des derniers Jeux Olympiques. J'étais dans la salle pour ce quart de finale où on perd en prolongation face à l'Allemagne après avoir mené 2 buts à 13 secondes de la fin. J'étais pas bien après la défaite. Mais cette défaite qui est associée à un jeu en plus qui n'était pas à la hauteur des attentes est désormais derrière eux. Le mondial a l'occasion de repartir sur de bonnes bases, surtout avec une équipe qui mélange jeunesse et expérience. Ce sera d'ailleurs la première compétition depuis 2003 sans Nicolas Karabatic, donc qui a pris sa retraite cet été. Après
un petit joueur, je crois.
C'est exceptionnel. Ouais. Un petit joueur, je pense.
Qui n'a pas fait une grosse carrière.
Hein. Ouais. Ça se trouve, un jour, j'en ferai une petite chronique pour parler de cette petite carrière.
C'est clair.
La preuve, tellement un petit joueur qui... Donc, il a pas porté la flamme olympique.
Ouais, c'est vrai que c'est
ouais, mais ça, c'est plus pour des questions d'affaires de Paris ouais, truquées quand il était du côté de Montpellier. Une ouais. petite partie de la carrière qui est un peu plus sombre que le reste. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est un grand joueur qui nous a fait rêver. Mais la mission, du coup, elle est claire pour l'équipe de France. C'est prouver au monde du handball que on est toujours là. Après l'Euro remporté il y a un an, on s'en rappelle, le tir d'Elohim Prandi qui avait arraché la prolongation. On s'en souvient bien.
Les Suédois s'en rappellent.
Du coup, voilà, et prouver à tout le monde qu'on est encore une nation dominante et ça a très bien démarré ce soir avec cette victoire. Je rappelle 37-19 face au Qatar.
3 semaines de compétition environ, donc on a le temps d'en parler dans l'émission et on va forcément en reparler la semaine prochaine tout au long de ces 3 semaines de compète.
Complètement. Et donc voilà, Koweït, le prochain match sera jeudi à 18h.
Ah, donc jeudi 18h, et puis après on enchaîne avec le match, donc le NBA Paris Game. Quoi.
Parfait.
Spurs Pacers.
Belle soirée sur Beansport.
D'ailleurs, on fera c'est vrai, en plus. On fera un petit pari. Voilà, on fera nos favoris, à savoir si oui ou non, qui va gagner cette rencontre entre Pacers et Spurs et le nombre de points de Victor, tiens, à la fin de l'émission. Amaury, c'est à toi. On continue avec toi.
Oui, il faut que je retrouve où j'étais. J'avais la Ligue 1 entre les deux. On a aussi dans ma petite fiche. Et donc on a aussi ce week-end le début de l'Open d'Australie qui a commencé.
Oui.
Alors pas possible de vous donner tous les résultats, mais chez les gars, le premier tour est plutôt bon, avec notamment la qualification de Gaël Monfils après sa victoire à Brisbane la semaine dernière dans le dernier tournoi avant l'Open d'Australie, mais aussi de Quentin Alice, Arthur Fils, Hugo Gaston, Arthur Cazot, Hugo Humbert, Benjamin Bonzi ou encore Corentin Mouten. Oui, c'est un fait du monde au deuxième tour chez les gars. Ça passe aussi pour la plupart des favoris, excepté le grec Stefanos Tsitsipas qui lui n'est pas passé. On a eu Medvedev qui a failli tomber lui aussi. Hein, il s'est bien énervé de 7-1. Il a cassé la caméra qui était présente sur le filet en donnant des coups de raquette. Des images qu'on n'aime pas forcément voir, mais en tout cas, après ça lui a permis de se remettre dedans peut-être. Il a gagné les deux derniers 3-7-2 pour Medvedev. Chez les filles, pas aussi satisfaisant que chez les gars. On a seulement Varvara Gracheva qui rejoint le second tour du côté français. Donc élimination pour Caroline Garcia, Léolia Jean-Jean, Chloé Paquet ou encore Diane Paris. Et donc maintenant, on espère que mardi prochain, on pourra encore parler des Français, parce que ça voudra dire qu'on en aura en deuxième semaine.
Les Français en deuxième semaine, c'est toujours plus compliqué.
Les Français en deuxième semaine. Moi, j'ai envie d'y croire peut-être quand même un petit peu chez les gars. Plutôt, pourquoi pas on a plusieurs Français qui sont capables. Hein. Arthur Cazot est capable.
Il a fait une très bonne performance l'année dernière.
Voilà. Et franchement, en fait, c'est la surface où on est les meilleurs. Le dur en France, on a un grand chelem qui est sur terre battue. Hein. C'est beau, mais on n'est pas performant sur terre battue. On a peut-être pas assez de terrain en terre battue en France. Je sais pas. Quand on voit les Espagnols qui eux performent énormément parce que ils ont que ça chez eux quasiment. Ouais. Nous, on a beaucoup de terrain dur en France et on performe sur le dur. C'est logique, hein, mais c'est dommage quand on sait que notre grand chelem est sur terre battue.
Tu parles de l'Espagne et Marin pourra en témoigner, mais comment dire, lors du voyage en Espagne, quand on est descendu du bus, il y avait que des cours de tennis, que des cours en terre battue.
Ah oui, non mais
que des cours en terre battue.
En Espagne, c'est la terre battue partout. Hein.
Et autour de Barcelone, pareil, contre
Passé
et cours de padel. Ah, par contre, le padel, c'est vrai que c'est. Mais c'est pas mal, hein, franchement, quand on prend un peu d'âge et qu'on veut garder un peu de condition physique. Les genoux restent en bonne santé et du coup, on va faire un petit padel de temps en temps.
Ouais, j'ai fait du squash ce week-end.
Ah, t'as aimé ou pas?
Ouais, j'adore le squash. J'en ai fait 3/4 fois que j'en fais, mais j'adore le squash. Franchement, c'est très drôle.
Faustin, un sport aussi qui te permet de. T'en as pas assez comme ça?
Moi, à part le basket. basket.
Ok, d'accord. On n'a pas encore. Toi, Marin, padel, t'as essayé ou pas?
Non, jamais. Par contre, le tennis, moi, ça me tente. Ça me tente. Ouais. Mais franchement, ça a l'air d'être un sport vraiment bien.
Bon, écoute.
Il y a des terrains accessibles à Angers à côté de Jean-Bouin, si vous voulez essayer. Alors, quand les licenciés sont là, évidemment, c'est priorité pour eux, mais vous arrivez au terrain, autrement, à Angers.
C'est vrai, c'est gratuit.
Donc, moi, j'y suis beaucoup allé quand j'étais à l'IFEPSA. Donc, vous pouvez y aller gratuitement comme ça. Franchement, c'est sympa.
Ok, c'est bon. Le petit tips d'Amaury pour nos auditeurs de Génération Sport.
Bon, on continue du biathlon direction Oberhof en Allemagne ce week-end avec de très bons résultats côté français. 6 courses, 3 courses avec victoire, 5 avec podium, dont le sprint homme où on a réalisé un magnifique triplé avec Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude et Emilien Jacquelin. On a aussi le droit à une belle histoire avec Paula Bottet, tout juste arrivée sur le circuit international, qui a décroché à la fois donc sa première médaille, mais aussi sa première victoire sur le sprint féminin à faveur d'un 10 sur 10 au tir et d'un très beau temps au ski. Donc c'était à souligner. En termes de classement, chez les hommes, Emilien Jacquelin reste 3e, Fabien Claude 4e, derrière les inévitables Tarjei-Bueu et Sturla Lagrid. Quentin Fillon-Maillet à 7e et Fabien Claude 8e. Chez les femmes, un beau week-end pour Lou Jamono qui reprend des points à la leader Franziska Preuß et qui conforte de son côté sa 2e place. 4 autres françaises dans le top 10, c'est dire l'homogénéité du côté français, donc avec Julia Simon, Justine Brezaz, Jeanne Richard et Océane Michelon. Donc de très beaux résultats du côté du biathlon. On en avait parlé depuis le début, on va continuer d'en parler. Parce que on performe bien et c'est très plaisant.
Et qui prend de plus en plus de place grâce à l'équipe 21 aussi, quand même, faut le dire, parce que quand c'est un sport aussi en clair, ça fait plaisir à voir.
Prolongé jusqu'en 2030, je crois, sur l'équipe.
En même temps, c'est. T'as vu l'info, non? C'est la poule aux odeurs pour l'équipe 21. En même temps, chaque hiver, ça fait des records d'audience.
Arrivé en 2015, ça fait quasi 10 ans déjà qu'on a le droit au biathlon.
Déjà 10 ans. Mais vraiment, ça montre aussi peut-être que. Il y a peut-être des chaînes ou des disciplines qui devraient peut-être mettre leur ligue numéro 1 en clair parce que on voit que les gens sont derrière la télé, ont envie de suivre les disciplines, même si parfois je vois que DAZN met des matchs de Betclic pour la chaîne YouTube.
Oui. D'ailleurs, ça reste rare.
Ça reste un match de temps en temps.
Voilà.
C'est déjà ça, on va dire. Allez, on va se dire que c'est déjà le début.
Petite info aussi pour les matchs du NBA Paris Game, ils seront sur Canal+, mais en clair, diffusés aussi pour ceux qui ne suivent pas, qui n'ont pas Bein Sport ou qui n'ont pas le NBA League Pass et qui voudraient suivre ces deux matchs de basket, donc deux matchs de NBA en clair, ça fait plaisir. En plus aux horaires européens, donc franchement.
Et avec Georges Eddy au commentaire.
C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est lui. Franchement, faut le regarder sur Canal.
Hein. Normalement, il me semble que c'est lui. Tous les ans, c'était.
C'est Georges Eddy et David Cosette ou pas?
Je sais pas, le deuxième chez
Google. Franchement, ça serait incroyable que ce soit les deux, parce que là, vraiment, tu retombes dans les années 90-2000, là.
Tous les matchs NBA Paris Games, ça a toujours été Georges Eddy qui commente sur Canal.
Il va nous lâcher un Chris Paul, donne-moi ton short. C'était la David Cosette qui avait dit ça, mais avec Georges Eddy, c'était énorme. Vraiment, très très belle époque NBA. Est-ce que tu as encore une dernière info ou pas, Maurice?
C'est pas forcément une info, mais je sais que la semaine dernière, vous avez pu parler de ce qui a fait l'année 2024 sport, et on voulait quand même dire un peu ce qu'on attendait pour 2025, donc je vais vous proposer peut-être de chacun donner une chose que vous attendez pour impatiemment pour cette année 2025 en termes de sport, que peu importe le sport que c'est, peu importe. Vas-y Faustin.
Je vais pas être original, je vais rester sur le basket et parler de l'Euro qui arrive cet été où on va peut-être voir du nouveau avec ce que Frédéric Fautou va nous proposer. Y voir une nouvelle performance de Victor Wembanyama en règle FIBA, ça fait toujours plaisir.
Moi, je vais dire Lens en Europe.
Lens en Europe.
J'aimerais bien voir Lens en Europe l'année prochaine.
Ils en sont pas loin avec cette victoire de ce week-end.
Exactement, on y croit.
Moi, franchement, je vais rester sur le SCO. Hein. Moi, c'est se maintenir. Ouais. Et pourquoi pas aller plus loin vers l'Europe?
S'ils font un parcours en Coupe de France, du coup.
Peut-être plus.
Ils partent un peu trop loin pour l'Europe, mais au moins s'ils font un parcours en Coupe de France.
Mathéo nous dirait que Lyon l'a fait l'année dernière.
c'est ça.
Et toi, Maury?
Moi, j'en avais noté plusieurs, mais je vais essayer d'en choisir un. Et en fait, je vais prendre sur le Tour de France. Moi, l'année dernière, j'ai adoré suivre le Tour de France, mais j'étais presque déçu qu'il n'y ait pas une grosse bataille. J'ai envie de voir une vraie bataille cette année entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, avec les deux qui arrivent en forme. On l'a pas eu sur les deux derniers Tours de France. Une fois, c'était Pogacar qui arrivait en cours de forme après une blessure. Ouais. L'année dernière, c'est Vingegaard. J'espère que cette année, ils arriveront tous les deux en pleine forme et en espérant voir une vraie bataille. C'est le petit truc.
Pourquoi pas? On verra si cet été, lors du Tour de France, on verra si l'un des deux fera le Tour d'Italie prochainement, le départ qui se fera en Albanie.
En tout cas, Vingegaard a annoncé faire Tour de France et Vuelta.
Écoute, on verra si Pogacar fera la même chose ou non. Il nous reste plus qu'une minute, mais on va du coup privilégier Marin pour son petit pronostic. Spurs ou Pacers qui gagnent donc jeudi soir là, pour le premier match.
Franchement, je pense à Paris, les Spurs. Hein. Wembanyama, gros match.
Combien de points?
35.
35 points.
Ah, j'allais annoncer 36. Donc je suis juste au-dessus.
36.
Et moi, j'ai envie qu'on m'aille parler le nombre de contres aussi.
Ouais.
Alors, combien de contres du coup?
Je pense que ça va être impressionnant. 12.
12 contre.
Record ouais, de contre pour MB. Et moi, je dis 36,6 contre.
36,6 contre pour toi.
Moi, j'irai sur 41,4 contre.
41,4 contre. Ok, d'accord. Moi, je vais rester sur un 28 points, 15 rebonds, 5 contre.
Allez,
ce sera pas mal déjà.
De toute manière, ce sera des belles performances.
Ça sera de très belles performances.
Il est obligé.
Et on aura deux matchs en espérant qu'ils puissent faire ça sur les deux matchs.
Exactement. Merci à tous, à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Marin, d'avoir été présent dans l'émission ce soir pour parler de basket, foot aussi. On voit que t'es à l'aise sur plusieurs sujets. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Génération Sport sur Radio G. Ciao, ciao.